Imo Week, le podcast. Spécial Trophée Logement et Territoire 2021. Retrouvons maintenant les intervenants du grand débat animé par Pascal Bonnefille autour du thème logement, les propositions des professionnels.
Bonjour Yannick Borne, président de Procivis. Procivis qui a toujours mené depuis très longtemps un combat pour le logement social de par le fait que vous êtes une coopérative. Donc ça c'est important. Ça veut dire quoi avoir une responsabilité territoriale par le logement ?
Le réseau Procivis, en fin de compte, son histoire c'est d'être d'abord un réseau et pas un groupe, donc une organisation hyper décentralisée avec des pouvoirs de décision qui sont sur les territoires. Aujourd'hui, c'est 48 SACICAP, c'est 10 000, plus de 10 000 logements. Sans doute, on va franchir cette année la barre des 10 000 logements. Un réseau aussi d'administrateurs de biens, donc une organisation assez particulière, parfois peut-être un peu compliquée à lire et à détecter complètement de l'extérieur. Mais nous, notre ADN, c'est de coller aux politiques territoriales. Et donc, c'est cette culture-là qui est chez nous. C'est-à-dire, on s'appuie bien évidemment sur les décisions des collectivités locales et de leurs orientations. On les accompagne parce que on pense qu'avec nos différents métiers, on est un acteur présent sur la promotion immobilière, sur les services, mais aussi sur le logement locatif social dans un certain nombre de territoires, pas nécessairement partout, mais dans un certain nombre de territoires. Et donc cette présence sur pratiquement toute la chaîne du logement nous confère, je pense, une légitimité et puis une capacité à analyser les marchés. Donc on est des accompagnateurs des politiques publiques. Quand on trouve qu'elles sont justes et bonnes, eh bien on essaie d'y contribuer fortement. Quand on a des nuances, on essaie d'expliquer, de contribuer à les faire évoluer. Et on croit beaucoup, nous, à la décentralisation un peu plus forte de la politique du logement pour qu'elle colle beaucoup mieux aujourd'hui qu'elle ne le colle aujourd'hui aux besoins des territoires.
Vous êtes aussi, on le dit à chaque fois, un élu local, bien sûr, maire de votre commune, de Saint-Barthevin, près de Laval. Votre engagement, justement, avec Procivis, avec les missions sociales, et de plus en plus, on peut le dire, d'actualité. Ces missions sociales que vous menez depuis une bonne quinzaine d'années, vous, hein, je crois, c'est, vous pouvez nous les présenter.
Alors, les missions sociales, en fin de compte, c'est une partie de la RSE, en fin de compte, du réseau. C'est-à-dire que le fait d'être un réseau coopératif, ça signifie notamment que nous n'avons pas d'actionnaires au-dessus des sociétés qui prélèvent des quotes-parts de dividendes. Donc, nous, notre activité, elle s'exerce pour une grande part dans le secteur concurrentiel, pour une part significative aussi dans le secteur social, mais elle est soumise aux mêmes obligations de performance de gestion, en tout cas assez proche de nos concurrents, avec, comme tout résultat et comme tout excédent d'activité, excédent financier, un fléchage vers le développement, des volontés assez fortes en ce moment de regarder des opportunités de croissance externe, peut-être aussi des prises de risques et d'innovation. Voilà, ça c'est notre partie classique, on va dire, d'utilisation de nos fonds propres. Et puis dans le fait qu'il n'y ait pas d'actionnaires à prélever une partie de nos dividendes et qu'ils restent tous dans le périmètre des groupes, on a décidé depuis une quinzaine d'années d'accompagner les politiques publiques auprès des populations, des propriétaires occupants principalement les plus modestes, et donc de venir essayer d'être un maillon qui déclenche deux fois ou qui sollicite un certain nombre de dossiers. Ça prend deux formes principalement. La principale qui marche vraiment très bien et qui est très appréciée aujourd'hui, c'est d'être notamment un préfinanceur des aides publiques dans le logement existant, parce que vous savez très bien qu'il y a aujourd'hui un accompagnement assez significatif dans ce domaine-là, mais avec une particularité, c'est que souvent, pour les populations, il faut avancer un peu les fonds, il y a éventuellement des acomptes de financement public qui sont apportés, mais le reste vient à la fin des travaux, et donc dans un certain nombre de cas, je pense notamment aux copropriétés, ça peut être assez compliqué pour certaines familles modestes, et donc le réseau a mis en place tout un mécanisme de préfinancement qui aujourd'hui est reconnu, complètement sécurisé, pour les accédants bien évidemment, mais aussi pour nous. Et puis la deuxième partie qui est un petit peu moins importante aujourd'hui en volume parce qu'il y a d'autres dispositifs qui existent et qu'il y a eu un gros effort du gouvernement sur l'aide au logement existant, c'est le financement des restes à charge pour les populations, on va dire en gros sous plafond ANA. Quoi. Voilà un petit peu les mécanismes. Sur la période 2018-2022, on sera autour de 400 millions d'euros d'accompagnement des populations modestes. Avec une règle du jeu qui est assez simple. Quand il n'y a pas besoin de nous, il n'y a pas besoin de nous, c'est pas grave. Et nous, on vient pour déclencher là où c'est plus compliqué.
Vous participez aujourd'hui, dans le cadre de ces trophées logement et territoire, à un débat dans le thème est logement, les propositions des professionnels. Alors, c'est très large comme sujet. Quels enseignements vous tirez, justement, vous, en tant que professionnel du logement, de la crise sanitaire économique qui a touché tout le monde? Est-ce que ça a changé les choses, justement?
Alors, Nous, on vient de sortir il y a quelques jours notre deuxième baromètre. Un baromètre qu'on avait lancé l'année dernière, au mois de novembre, et en fin de compte qui était né d'un agacement un peu de ce qu'on avait lu en juin-juillet 2020, sortie de Covid, premier confinement, enfin sortie de confinement plutôt. Et on voyait tout de suite des déclarations qui allaient prévoir un exode urbain massif. Bon, on trouvait que c'était un peu précipité. Et on a un petit sujet quand même dans le secteur du logement, c'est que je suis pas certain qu'on analyse toujours parfaitement avec détail la demande. Et donc, on avait lancé ce premier baromètre, on vient de lancer le deuxième. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce deuxième baromètre ? Il nous dit d'abord des choses qu'on connaît tous, mais qu'on a besoin quand même, apparemment, de documenter un peu plus. Un, que tout le monde n'a pas vécu la période de crise sanitaire de la même façon en fonction de son logement. Donc là, il y a un vrai, vrai sujet social. Deux, que l'aspiration à la maison individuelle reste majoritaire et très fortement majoritaire. Et puis trois, qu'il y a une aspiration à la mobilité, mais entre l'intention et le passage à l'acte, il y a quand même un vrai frein. Et plusieurs freins, il y a des freins liés à l'emploi, il y a des freins liés au coût, évidemment, il y a des freins liés à la vie familiale, il y a tout un tas de freins, ce qu'on comprend tous, hein, mais qu'il y a quand même malgré tout une aspiration de changer de territoire, mais progressivement, et de passer d'une ville à une ville un tout petit peu moins importante, sans pour autant franchir un cap très fort d'une grande ville à une toute petite ville. Il y a des étapes progressive. Donc c'est un petit peu ça que ça nous conduit à analyser. Et puis l'autre grande question qui se pose, c'est aujourd'hui quand même sans doute en lien un peu avec la crise sanitaire, mais on a l'impression de voir que partout c'est difficile de se loger, ce qui n'était quand même pas le cas, enfin c'est pas la lecture qu'on en avait il y a quelques mois. Partout ça a l'air d'augmenter en termes de prix de loyer, et quand je dis partout, c'est même des territoires qui étaient très identifiés comme très détendus, c'est pas un mot que j'aime beaucoup, mais c'était comme ça qu'on les qualifiait. Voilà, donc moi je pense qu'il faut être un peu prudent avant de tirer des conclusions complètement définitives de ce contexte, mais il se passe certainement un certain nombre de phénomènes.
Ce qui est intéressant dans votre étude, c'est ce que vous avez appelé le retour à l'enfance, c'est-à-dire la volonté des gens d'avoir un logement qui corresponde au logement dans lequel ils ont grandi, qu'ils ont connu en étant enfants, et qu'une fois qu'ils avaient pu atteindre un logement qui se rapprochait de celui qu'ils avaient connu enfant, ils n'avaient plus cette volonté, entre guillemets, de déménager, ils avaient plus tendance à y rester, voire à y finir parfois leur vie. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu cette idée qui ressort de votre étude ?
Dans le baromètre cette année, effectivement, on a voulu pousser un peu l'analyse dans les personnes interrogées, c'est en essayant d'identifier leur parcours logement, ce qui n'avait jamais été fait a priori, donc sur 10 000 sondés avec Harris Interactive. Ce qui ressort d'abord, c'est que la moyenne de logements chez les Français tourne à 4 logements. Et effectivement, alors, je ne sais pas si c'est qu'on aspire à retrouver le logement de son enfance. C'est juste que quand on trouve quelque chose qui ressemble, je ne suis pas certain que ce soit consciemment qu'on aille jusque-là, mais quand on trouve quelque chose qui ressemble à la stabilité qu'on a pu avoir dans sa vie familiale avec ses parents, c'est quelque chose qui peut être considéré comme assez sécurisant et presque aboutissant. Et effectivement, là, il y a une mobilité qui devient beaucoup plus lente, qui s'arrête pratiquement. Voilà. Alors, il y a des points forts à ça et il y a des points faibles. L'un des points faibles, c'est se dire est-ce qu'on a vraiment un ascenseur social suffisant, parce que ça dépend d'où vous venez en fin de compte par rapport à votre enfance. Mais c'est vrai que quand on a eu un environnement dans sa première partie de vie qu'on a considéré sécurisant par le logement et qu'on le retrouve dans sa vie autonome derrière, on a l'impression que là, il y a pour une grande part un espèce d'arrêt à la recherche de quelque chose de plus. Alors, c'est un sondage. On va essayer d'étoffer un peu. Il y a beaucoup de données, donc il y a encore des analyses croisées qui doivent se faire. On essaye aussi de le régionaliser, parce qu'on a beaucoup de données régionales. Donc, on va voir si c'est des comportements qui sont homogènes sur le territoire, ce qui est peut-être pas certain suivant les zones territoriales. On voit aussi que, par exemple, quand je parle, la moyenne, c'est 4 logements. Bah, qu'en Ile-de-France, ce n'est pas le cas, parce que c'est beaucoup plus difficile de retrouver le logement de son aspiration. C'est beaucoup plus difficile de retrouver un logement quand on a envie d'être mobile. Voilà, donc vraisemblablement qu'il y aura des nuances régionales, mais on en tire quand même des enseignements assez, assez forts par rapport à ça. Et tous ceux qui ont regardé l'étude sont questionnés par ce phénomène-là. Donc il va falloir qu'on le documente plus, qu'on le creuse un peu plus sans doute pour voir exactement ce qu'il y a complètement derrière.
Juste une dernière question, Yannick. On arrive sur une campagne présidentielle, l'élection présidentielle. Le logement est-il suffisamment mis en avant, d'après vous, dans les campagnes, dans la campagne de tous les candidats? Faudrait-il qu'il le soit plus? Qu'est-ce que vous aimeriez dire, vous, aux différents candidats?
D'abord, ce qu'on aimerait dire, c'est que c'est aujourd'hui un sujet majeur avec l'emploi pour l'ensemble des habitants. Quand vous avez un emploi ou quand vous avez un logement, c'est pas pareil quand vous n'en avez pas dans votre vie. Donc, c'est vraiment un sujet majeur. Deuxième chose, rappelons que c'est quand même une dépense importante dans le budget de chacun d'entre nous tous les mois. C'est la première dépense la plupart du temps, sauf quand vous avez fini de payer éventuellement votre accession à la propriété. C'est quand même une place importante dans la vie de chacun d'entre nous. C'est sûr que le logement a toujours beaucoup de difficultés à prendre une vraie place dans les campagnes présidentielles. C'est pas nouveau. Qu'on a fait un petit retour en arrière sur les depuis 95. En fin de compte, il a eu une vraie place en 95 et en 2007. En 95, avec Jacques Chirac et Pierre-André Périssol qui portaient la création du prêt à taux zéro. C'était un truc fort, donc c'était marquant. Et puis en 2017, avec un des candidats qui avait parlé d'une France tous propriétaires, dont je ne suis pas certain que ce soit un slogan qui soit très, très porteur. Nous, ce que l'on dit aujourd'hui aux candidats, c'est que il faut s'approprier franchement cette problématique du logement. C'est une matière qui est compliquée. Moi qui suis élu local, qui ai la chance de baigner dans l'activité logement, je suis à peu près à l'aise avec le sujet, mais je comprends que pour les élus locaux qui arrivent, c'est une matière, qui découvrent ce secteur-là, c'est une matière complexe. Mais aujourd'hui, dans la crise que l'on connaît, il est indispensable que des choses changent. Et ça peut pas être que de la déclaration, comme j'ai pu l'entendre dans certains débats, il faut construire plus. On est tous d'accord pour faire ça. Aujourd'hui, on sait que c'est une vraie difficulté, qu'on n'a pas vraiment la recette miracle. On a plusieurs pistes de travail. Et nous, on produira d'ici la mi-décembre un document pour répondre à la fois à l'objectif de la limite de l'étalement urbain, mais arriver à construire plus. Et donc, il faut vraiment revenir sur des positions. Moi, je pense par exemple que l'appel à accession est un sujet qui doit être remis sur la table. Je pense que la question du zonage, c'est un sujet aujourd'hui qui est un peu archaïque et qu'il faut repenser. Je pense que le sujet de la fiscalité locale est un vrai débat, parce que il est aujourd'hui, vous faites pas de logement sans partenariat et sans partage de d'analyse territoriale avec les collectivités locales. Voilà, il y a beaucoup beaucoup de sujets sur la table, et je formule l'espoir quand même que les candidats prennent ça en main et que tous les acteurs que nous sommes, la journée d'aujourd'hui contribuera, mais nous on est aussi à l'USH, moi je suis vice-président de l'USH, l'USH va amener ses contributions, la Fondation Abbé Pierre y mettra aussi les siennes.
Donc vous avez l'oreille des gouvernants.
Ouais. On a l'oreille, après on avait un peu l'impression de l'avoir aussi en 2017, on n'a pas vu que ça se traduisait par beaucoup d'effets. Quoi. Donc voilà, il va falloir trouver la bonne formule par rapport à tout ça.
Merci beaucoup Yannick Bird, merci.
Merci.